Est-ce donc cela, sire, que vous voulez pour elle? La cloîtrer?
Et quoi? N'est-ce pas un bon établissement? Dit Louis. Et puis, il faut que cela soit. Elle ne saurait rester dans le monde, et je trouve bon pour notre salut et pour le sien qu'elle rachète par une vie de piété la faute que nous avons commise en sa naissance. Quant à toi...
Monseigneur Louis, m'enfermerez-vous aussi au cloître?
Demanda Eudeline avec effroi. Comme le hutin avait changé, en peu de temps. Elle ne retrouvait plus rien en ce roi qui dictait ses ordres d'un ton sans réplique, ni de l'adolescent inquiet auquel elle avait appris l'amour, ni du pauvre prince grelottant d'angoisse, d'impuissance et de froid qu'elle avait encore réchauffé dans ses bras un soir de l'hiver passé. Les yeux seuls gardaient leur expression fuyante.
« Pour toi, dit-il, je vais te donner charge de surveiller à Vincennes le meuble et le linge, pour que tout soit prêt chaque fois que j'y viendrai. »
Eudeline hocha la tête. Cet éloignement du palais, cet envoi dans une résidence secondaire, elle les ressentait comme une offense. N'était-on pas satisfait de la façon dont elle tenait son office? En un sens, elle eût mieux accepté le couvent. Son orgueil eût été moins blessé.
« Je suis votre servante et vous obéirai, » répondit-elle froidement.
Elle invita Eudeline la petite à se relever et lui reprit la main. Au moment de franchir la porte, elle aperçut le portrait de Clémence de Hongrie posé sur une crédence et demanda
« C'est elle ?»«
C'est la prochaine reine de France, » répondit Louis X, non sans hauteur.
« Soyez donc heureux, sire, » dit Eudeline en sortant.
Elle avait cessé de l'aimer.
« Certes, certes, je vais être heureux !»
se répétait Louis, marchant à travers la chambre où le soleil entrait à grands rayons.
Pour la première fois depuis son avènement, il se sentait pleinement satisfait et sûr de soi.
Il s'était délivré de son épouse infidèle, délivré du trop puissant ministre de son père, il éloignait du palais sa première maîtresse et envoyait sa fille naturelle au couvent. Tous les chemins nettoyés, il pouvait maintenant accueillir la belle princesse napolitaine et se voyait déjà vivre auprès d'elle un long règne de gloire. Il sonna le chambellan de service.
« J'ai fait mander messire de Bouville, est-il arrivé ?»«
Oui, sire, il attend vos ordres. »
À ce moment, les murs du palais vibrèrent sous un choc sourd.
« Qu'est ceci ? » demanda le roi. « La statue, je pense, sire, qui vient de tomber. »«
C'est bien, dit à Bouville d'entrer. »
Et il se disposa à recevoir l'ancien grand chambellan. Dans la galerie Mercière, la statue d'Enguerrand gisait sur le pavement. Les cordes avaient glissé un peu vite, et les 20 quintaux de pierre avaient brutalement heurté le sol, les pieds étaient rompus. Au premier rang des badauds, Spinello Tolomei et son neveu Guccio Baglioni contemplaient le colosse abattu.
« J'aurais vu cela, »
murmurait le capitaine des Lombards.
Il n'affichait pas, comme Monseigneur de Valois du haut de la fenêtre à balustrade, un triomphe ostentatoire. Mais sa joie non plus ne se teintait pas de mélancolie. Il éprouvait une bonne satisfaction bien simple et sans mélange. Tant de fois, sous le gouvernement de Marigny, les banquiers italiens avaient tremblé pour leurs biens et même pour leur peau. Messer Tolomei, un œil ouvert, l'autre fermé, respirait l'air de la délivrance.